Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, eh bien, on lève le voile sur la réalité des choses, même les plus compliquées, acceptées dans notre culture. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatiha Assel, bonjour.
Bonjour Alena.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lella Fatiha.
Merci aussi pour l'invitation, pour l'intérêt.
C'est très gentil à vous. Alors, Lella Fatiha, en fait, vous êtes une femme en plein dans les énergies.
Tout à fait, oui. Depuis un moment.
Donc,
ça a toujours été mon métier, on va dire.
Alors, énergie au niveau professionnel, parce que vous êtes dans ça, en fait, c'est votre métier, mais aussi dans l'énergie physique et émotionnelle. Alors, brièvement, vous faites quoi dans la vie, Lella Fatiha?
Non, à la base, je suis ingénieure en informatique. J'ai passé 25 ans de ma carrière dans l'IT. Et là, depuis moins d'un an, donc je travaille dans les énergies, que ce soit énergie directe ou renouvelable, en fait, avec une société marocaine.
OK. Et vous vous renouvelez aussi à travers le sport?
Exactement. j'ai repris le sport depuis le mois d'octobre, donc c'est tout récent.
Alors, justement. Tout ça est très récent et pourtant, en fait, juste avant Ramadan, vous avez participé à Sahraouia.
Tout à fait, oui.
Yek. Et après Ramadan, vous allez participer au Rallye Aïcha des Gazelles.
Inch'Allah.
Alors, comment c'est possible de participer à ces événements-là alors qu'on a repris le sport, ça fait même pas 6 mois?
Oui. Alors, c'est simple. Moi, je suis passée par une crise en fait de santé avec une crise de sciatique très 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 violente il y a 2 ans et demi.
D'accord.
Et c'est là où j'ai eu une claque en fait dans ma vie. J'étais tout le temps juste me sacrifie, on peut dire ça comme ça, pour ma famille, mes enfants, et je m'oubliais. Et au final, je me suis rendu compte que mes enfants, ils n'ont pas besoin d'une maman qui est tout le temps là pour eux, mais qui est épanouie. Donc qu'est-ce qu'ils font avec elle? Ils passent un moment de qualité. Et c'est là où j'ai commencé à me concentrer un petit peu plus sur moi-même. J'ai repris un petit peu l'activité physique, mais doucement. Et j'avais des soucis de santé autres, en fait. Une anémie sévère que j'ai réglée avec une intervention chirurgicale qui s'est passée en mois de juillet 2024. Et juste suite à ça, je commençais à courir. Et je voyais les 10 km de Casablanca. C'était pour moi impossible de courir 10 km sans s'arrêter. Je me suis inscrite quand même. C'était un défi pour moi. Ça s'est très bien passé. J'étais étonnée de moi-même. J'ai enchaîné en s'inscrivant au semi-marathon de Marrakech, que j'ai fait en fin janvier, juste une semaine avant Sahraouia. Sahraouia, c'est venu par hasard. En fait, c'est mon employeur qui a fait un appel à candidature. Donc, je me présente sans grande conviction et on finit 6e. Donc, voilà.
Alors, vous le racontez avec tellement de facilité. Qu'est-ce que ça vous a coûté comme temps? Qu'est-ce que ça vous a pris comme temps? Il y a eu la prise de conscience en tant que maman, d'accord? Walakin, après, il faut mettre la machine en marche. Parce qu'il y a eu la maladie, il y a eu tout ça. Il faut laisser le corps... Chnederti, en fait. Voilà, chnederti.
J'ai essayé un petit peu de ne pas trop... me poser des questions. Donc, quand on se fixe un objectif, comme j'ai dit, pour les 10 km de Casa fin octobre, j'avoue que c'était un petit peu stressant pour moi au début parce que je ne voulais pas finir la course en marchant. Donc, ça, c'était mon challenge. Et j'ai réussi à courir en 1h02. C'est un chrono magnifique par rapport à une première fois. Et je me suis dit, en fait, cette limitation, c'est que dans ma tête.
Mais comment vous vous êtes entraînée, en fait? Vous avez couru fin?
Toute seule, en fait, j'ai payé l'abonnement d'une application de running, en fait, comme il y en a pas mal, et j'ai fait mon objectif avec mes séances de sortie 3 fois par semaine. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à trouver le temps. Quand on a un objectif, on arrive à trouver le temps, qu'il fasse beau ou pas. Des fois même, je dépose le petit à l'école, j'ai 30 minutes, je pars en tenue, je cours et je rentre chez moi, je travaille. L'avantage, c'est quand on peut travailler aussi de la maison, ça nous permet de gagner du temps. Et j'ai fait le semi-marathon de Marrakech et j'ai fini, j'étais sur un nuage pendant plusieurs jours en fait. Et pour Sahraouia aussi. Donc, s'il n'y avait pas l'occasion à travers le sponsoring de mon employeur, j'aurais jamais cru que je pourrais faire du canoë, du trail, du VTT dans des conditions vraiment difficiles. Il y avait des athlètes professionnels avec nous, en fait. On s'est bien battus. On était nous-mêmes, en fait. Je parle parce qu'on s'est en binôme, en fait, Sahraouia. On était très surprise de ce qu'on était capable de faire, en fait. Mmh. Il y a une force qui sort comme ça. C'est inexplicable, en fait. Mais une fois qu'on est dans l'action, on se surprend moi-même, nous-mêmes, en fait. C'est ça ce qui est incroyable. Il faut juste commencer, voilà. Ouais. Et après, avec le progrès, avec l'évolution, parce que je n'ai pas pu courir 20 km d'un coup. J'ai fait des sorties de 2 km. Après, on augmente un petit peu le volume, ce qu'on appelle le volume de kilométrage de course, à travers un planning. Et ça se fait d'une manière, le corps, il peut se régénérer facilement. Donc moi, j'ai 51 ans et avant, si on me disait ça il y a 20 ans, qu'à 50 ans, je vais pouvoir courir 20 km, je ne l'aurais pas cru. Mm. D'ailleurs, ça m'a encouragée à m'inscrire au marathon. Donc je vais faire le marathon de Berlin au mois de septembre.
C'est déjà acté. Alors, 51 ans...
Il faut des objectifs, voilà.
Ouais. 51 ans, justement, un problème de dos. Le dos, alors, courir et le dos, est-ce que ça va ensemble?
Moi, je dis que ça va. Depuis que je cours, j'ai moins mal. J'ai mal, mais j'ai moins mal. Donc, parce que quand on a un objectif de course comme ça, on fait bien sûr du renfort avec, on fait des étirements, on fait pas mal de choses qu'on ne penserait pas faire si on ne fait rien. Et ça, ce qui est paradoxal, quand on commence à avoir le mindset de sportif, entre parenthèses, on peut dire ça comme ça, on fait des choses à côté, parce que on rentre dans un monde, en fait, de coureur, c'est un autre monde. J'ai découvert un autre monde, un autre jargon, ce qu'on appelle les sorties longues, les intervalles, fartlek, enfin, plein de trucs que je ne connaissais pas avant. Mm. Donc, on commence un petit peu à s'intéresser, à voir les chaussures qui vont avec, les compléments alimentaires qui vont avec, l'équipage qui va avec. Donc, on approfondit notre savoir, notre connaissance, et on fait un bien fou à notre corps, et on fait tout ce qui va avec pour rester en forme, parce qu'il n'y a pas plus dur pour un coureur d'être blessé ou d'être dans une phase où il ne peut pas courir. Mmh. Ça devient comme une addiction. Donc, pour éviter d'être obligé de ne pas courir, on fait tout ce qu'il faut. Et parmi tout ce qu'il faut, le renforcement, c'est bénéfique pour le coureur. Pour le dos, je veux dire. Et du coup, c'est incroyable. Moi, si j'aurais...
C'est un cercle virtueux.
Exactement. Mmh. Et c'est très bénéfique, que ce soit au niveau de l'articulation aussi, des genoux, des chevilles. Enfin, c'est un renforcement qui se fait naturellement sans le programmer.
Okay.
Donc, c'est ça ce qui est magique. Voilà.
Alors, 51 ans, le voile, tout ça, rien n'a été une limite.
Bah, c'est ma façon, à moi, de changer l'image qu'on a de la femme voilée. Surtout moi, j'ai vécu plus de 20 ans en Europe et j'ai suivi des remarques un petit peu, voilà, qui sont déplacées. À chaque fois qu'on voit une femme voilée, on va associer une femme qui est fermée, qui n'est pas épanouie, qui ne sait rien faire de la vie, à part faire la cuisine. Donc c'est ma façon c'est mon message à moi, en fait. Mm. Je voulais donner... quand j'étais là-bas ou ici, en fait, au Maroc. Donc, ça fait un an et demi que je suis rentrée définitivement en famille au Maroc. Et le challenge du rallye, ça fait partie aussi de mon défi personnel, parce que, à part le voile, moi, je viens d'une famille où la fille n'avait pas de valeur en face du garçon, malheureusement.
D'accord.
C'est toujours le cas avec ma mère, mais bon, je ne lui en veux pas. Il a été, on va dire... programmée comme ça depuis petite, donc c'est ma revanche à moi, en fait, de montrer qu'on peut faire les choses même en étant une fille. Enfin, c'est surtout pour le rallye Aïcha des Gazelles, où c'est un rallye d'orientation. On sait très bien qu'on a l'image de la femme qui ne sait pas s'orienter, donc là c'est un rallye d'orientation sans GPS, sans téléphone, sans rien du tout, juste une carte, une boussole et des balises à trouver. Et c'est ça le challenge, en fait, que je vais relever, Inch'Allah.
C'est un point qui vous dérange encore, en fait. Vous le vivez comment, Hadla ? C'est justement ce que vous venez de soulever, le fait d'avoir une maman qui préfère les garçons aux filles.
Moi, c'est quelque chose qui m'a complètement changée depuis petite, en fait. J'ai, J'ai toujours voulu faire plus pour montrer que je peux être mieux qu'un garçon. Donc petite, j'étais plus attirée par les jeux de garçons, je jouais au foot, je jouais tout ce que les garçons jouaient, pas les filles. Aussi au niveau scolaire, donc je me donnais à fond, je mettais la pression toute seule en fait pour être la meilleure. Et ça jamais suffi en fait, on va dire.
Oui.
Jusqu'au jour où justement ces problèmes de dos, c'est en partie c'est lié à ça. Donc j'ai fait des séances en fait d'éthiopathie, c'est une façon d'interroger un petit peu ce qui est enregistré dans notre corps. Et c'est là où ça a été remonté. C'est à ce moment-là où je me suis dit il faut que j'arrête à me demander plus que ce que je peux. J'ai rien à prouver à personne. C'est à ce moment-là où je commençais à ne pas chercher la reconnaissance de qui que ce soit, mais à me focaliser sur moi. Et subhanallah, ça se répercute après sur on va dire mes enfants surtout, parce que c'est eux qui subissaient un petit peu, si on peut dire ça comme ça, le mal-être un petit peu de leur maman. Quand il y avait des moments où j'avais des remarques un petit peu qui me plaisaient pas, en fait, j'étais très j'acceptais pas cette injustice en fait, juste parce qu'on est femme, on n'est pas capable de faire quelque chose. Donc du coup ils ont senti ce changement là et c'était bénéfique pour tout le monde en fait. Il fallait se arrêter de toujours vouloir prouver des choses en fait. On n'a rien à prouver. C'est ça le message que je voulais passer en fait.
Vous arrivez à l'accepter ça aujourd'hui? Vous arrivez à l'accepter maintenant que vous êtes mère? Est-ce que vous arrivez à l'accepter qu'on puisse aimer un enfant plus qu'un autre? Un genre plus qu'un autre?
J'ai encore du mal à l'accepter, ça dépend. Ça dépend de la situation, quand c'est vraiment... Vis-à-vis de ma mère, je commence un petit peu à ne plus lui en vouloir. Ça m'affecte un petit peu moins, mais je ne suis pas encore arrivée au stade où ça ne m'affecte pas du tout.
Ouais, enfin, c'est la vérité.
C'est un peu difficile. Mais c'est comme ça. Il a été... il a un schéma qui était tracé pour elle, malheureusement. C'est comme ça. C'est...
Vous en avez parlé ouvertement?
Avec elle?
Oui.
Non, c'est difficile. Non, elle ne va pas comprendre. Et ce n'est pas que mon cas à moi. On est quatre filles. On subit toutes la même chose, en fait. Mais voilà. On sait qu'elle n'est pas armée pour pouvoir comprendre ce qu'on dit, parce qu'elle le dit sans le
penser, sans le réfléchir.
En fait. Elle se fait mal elle-même, en fait. Donc, sans se rendre compte, mais voilà. Donc, à 80 ans, je ne pense pas qu'on va pouvoir changer quelque chose.
Ouais.
C'est déjà ancré, on va dire.
Absolument.
Mais ça m'a permis un petit peu de ne pas trop lui en vouloir, de comprendre pourquoi elle fait ça. Donc, déjà, ça, c'est très, très important. Quand on sait que la personne est faite de son mieux par rapport au bagage qu'elle a en fait à sa position, ça nous permet un petit peu d'atténuer la douleur en fait.
Absolument, elle fait de son mieux. Alors je me suis toujours posé la question, quand on est dans ce genre de dynamique familiale, est-ce que on en veut aux autres, par exemple, est-ce que vous en voulez aux garçons d'être mieux traités que vous?
Non, mais par contre, on est très susceptible d'être agressif avec la simple remarque qui pourrait vous sembler un petit peu déplacée, même si la personne n'a pas vraiment voulu dire ce qu'on a eu l'impression de percevoir. Et ça, c'était un petit peu compliqué au début avec mon mari aussi. Donc, il a fallu que je fasse un travail sur moi. Pour faire un petit peu la part des choses, c'est pas de sa faute en fait. C'est moi, j'ai dû subir ça avant et c'était un petit peu compliqué à un certain moment. Donc c'est comme si je suis rentrée aussi en compétition avec lui, le pauvre. Donc ça, c'était un petit peu quelque chose qu'il a fallu un petit peu travailler pour ne pas aussi être malheureuse en couple en fait.
En couple,
ça, c'était quelque chose, ouais.
Ne pas répéter.
J'ai dû travailler ce point-là à plusieurs reprises. Donc, quelque chose qui remontait souvent. En fait, je me suis formée en tant que coach. Pendant la formation de coaching, on avait l'occasion de se faire coacher aussi. Donc, c'était parmi les points que j'ai dû travailler beaucoup.
Quand on a échangé ensemble, vous m'avez dit, en fait, je pense que mon témoignage peut aider et inspirer les jeunes filles issues principalement des milieux populaires. Ouais. Vous voulez dire quoi par là ?
Moi, j'ai grandi dans un milieu très défavorisé à Hey Mohammedi, si vous connaissez à Casablanca.
Oui.
Voilà, dans une fratrie de 8, donc 4 filles, 4 garçons. Je suis l'avant-dernière et je suis, à partir du 4e, ma mère ne voulait plus d'enfants, donc je n'étais pas désirée du tout. Mon père, la Hamoun, il n'avait rien à faire de ce que j'étudiais ou pas. Et il n'y avait que ma volonté, en fait, moi, qui m'a permis de faire des études et de devenir ingénieure, en fait. Et c'est qu'il fallait que je croie en moi, en fait. Sinon, personne d'autre ne m'a aidée au point de vue, on va dire, à m'encourager à faire quelque chose. Même mon grand frère, je me souviens très bien quand j'étais au année du bac, il a fallu que je fasse un choix par rapport à mon orientation. Il m'a dit ça comme ça, texto. Fais prof, toi t'es une femme, ça va être pratique pour toi avec les vacances scolaires et tout. Donc voilà, ça c'est quelque chose dans laquelle j'ai baigné. Et c'est ça, je veux qu'on fasse ce qu'on a envie de faire au-delà de notre milieu, de notre genre. Si on a de la volonté, on peut y arriver.
Mais à votre avis, justement, Lala Fatiha, à votre avis, pour vous, qu'est-ce qui vous a guidé ? Puisque c'est pas l'environnement proche, c'est pas les parents, c'est pas la fratrie.
Je sais pas. Il paraît que depuis petite, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas connu les maternelles, crèches, tout ça. Donc, je suis rentrée directement en classe CP. Donc, pour vous dire, je errais pour dire vraiment les choses comme ils étaient pendant 7 ans, parce que j'ai commencé l'école à 7 ans. En attendant le jour de rentrer et s'instruire, il paraissait que j'attendais ce jour-là avec impatience. Je ne savais même pas pourquoi, mais je savais que c'est à travers les études que j'allais m'en sortir. Et aussi, je pense, cette histoire d'injustice qui était au fond de moi, que je voulais prouver des choses, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est ça qui a créé en moi un driver interne qui faisait que j'étais très, très sérieuse à l'école. Et heureusement, en fait. Sinon, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu connaître dans cette vie. Donc, j'ai eu la chance de connaître pas mal de choses. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai cru en moi et voilà, donc le résultat, alhamdoulilah,
est là. Mais on vous a laissé étudier ?
Oui.
On vous a laissé étudier, on ne vous a pas, on vous a pas demandé d'arrêter, de travailler, de...
Non. J'avais à un certain moment un doute, en fait, enfin un doute, une peur. Quand j'allais intégrer les classes prépa, il fallait être interne. J'avais peur que mon père ne me laissait pas partir en internat. J'ai dû demander à mon grand frère, à des gens de la famille
d'intervenir,
de lui préparer un petit peu. Donc, mais j'étais à un moment de ma vie où mon destin n'était pas le mien, en fait. J'aurais pu ne pas avoir cette autorisation de partir en internat pour pouvoir faire les études que je voulais faire. Donc, mais alhamdoulilah, j'ai pas eu à vivre ça.
Donc, il a accepté.
Oui.
Il a accepté, il vous a aidé à financer. Vous avez financé comment, justement ?
Vous êtes C'était compliqué. C'était compliqué. Heureusement, bon, moi, il fallait juste avoir le strict minimum pour vivre. On avait la bourse qui couvrait les frais d'internat. Donc, je payais mes frais d'internat par la bourse qu'on avait sous les 3 mois. Mais le reste, voilà. Donc, je grattais un petit peu. La dernière année des études, j'étais obligée de faire un emprunt à mon frère, que j'ai dû rembourser une fois que j'ai commencé le travail. Donc voilà, c'était pas facile.
C'était pas facile.
Mais c'était possible. Donc c'est ça ce que je voulais donner comme message d'inspiration, en fait. On n'a pas besoin d'avoir tout qui est à notre disposition pour pouvoir réaliser nos rêves. Ça peut s'arranger, en fait. Mais il faut commencer. Le passage à l'action, c'est la clé. À tout, d'ailleurs, ça s'applique en entrepreneuriat, ça s'applique en plein de choses, comme pour le sport, comme j'ai dit tout à l'heure. Si je n'aurais pas enfilé mes baskets et sorti pour courir, je n'aurais jamais arrivé au niveau que j'ai aujourd'hui. Mmh. Pouvoir courir 20 km sans s'arrêter, je ne l'aurais jamais cru que je serais capable de le faire. En fait.
Vous êtes la seule de la famille à être arrivée à ce niveau d'études et à cette oui. réussite sociale.
Oui.
Ouais. On vous voit comment aujourd'hui?
C'est un peu compliqué. Malheureusement, au Maroc en général et surtout dans les milieux qui sont... On n'exprime pas beaucoup, on n'exprime pas les sentiments de fierté ouvertement. On va juste faire appel à vous parce qu'on a besoin de quelque chose financièrement. C'est voilà. Donc c'est frustrant aussi. Heureusement, si on a un petit peu basculé le mindset de ne pas toujours chercher la reconnaissance, à un certain moment, on commence un petit peu à ne pas donner beaucoup d'importance à ça. En fait, on l'a pas fait pour entendre je suis fière de toi ou bravo, quelque chose comme ça, mais on le fait pour le même. Donc, mais c'est pas évident en fait. À un certain moment, on a envie quand même d'entendre des mots parce que c'est humain en fait. Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin humain. Il faut pas que ça soit très important parce que sinon, ça nous rend malade. Mais ça fait plaisir quand même quand on l'entend.
Alors, est-ce que on a l'impression finalement quand on réussit professionnellement, on évolue dans l'échelle de la société, que on se déconnecte de sa famille? Du mode de vie de sa famille. J'imagine qu'aujourd'hui, vous voyagez plus souvent, vous sortez plus souvent, vous consommez plus souvent, différemment aussi. Est-ce que ça crée un gap entre vous et eux?
Oui, certainement. Et il faut, à un certain moment, moi, je me sentais pas à l'aise, en fait, avec ça. Je n'arrivais pas à profiter du moment présent parce que dans un petit coin de ma tête, je me dis « Ah oui, je suis en train de vivre ça » alors que ma mère, elle est dans sa vieille maison où il a toujours vécu. Il a fallu que je travaille ça aussi sur moi parce que, voilà, chacun y vit sa vie comme ça a été écrit pour lui. Quand il a besoin de moi, elle me trouve tout le temps. Donc, je n'ai pas à devoir en fait, associer ma vie à elle, en fait. Ça, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la vie, c'est comme ça. D'ailleurs, mes enfants, moi, j'ai des enfants qui sont grands, donc ils font leur vie. Je ne vais pas leur en vouloir. C'est, par exemple, je ne sais pas moi, pour l'aide, ils vont faire le choix de ne pas venir. C'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faut respecter. Donc, c'est vrai qu'il fallait aussi...
Faire la paix avec ça, en fait. Ne pas culpabiliser.
Surtout, l'accepter. Accepter, dire je mérite de profiter de la vie parce que j'ai travaillé dur pour ça. Et voilà.
Lalla Fatiha Assil, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.